Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage.
Les gars, bilan des constructeurs aujourd'hui, on va parler de Polestar, qui est une marque qui est débarquée sur le marché un peu curieusement. On avait l'impression que c'était un pendant direct de Volvo, mais on a tout fait pour nous faire croire que ça n'en était pas une, alors que c'était littéralement ça. Et là, ben, 2 ans et demi, 3 ans plus tard, la situation nous semble un peu précaire. Qu'est-ce qui explique ça?
Ben écoute, moi, je pense que du côté de Polestar, il faut se souvenir qu'au départ, bon, la première voiture qu'ils ont commercialisée, c'était la Polestar 1, qui n'était pas une voiture électrique, qui était une voiture hybride. Ouais. Puis ensuite, ils sont arrivés avec la Polestar 2, et ça, c'était la voiture qui allait les mettre sur la carte, comme on dit. Production chinoise. Quand même, la technologie de Volvo sont allés servir là, chez Volvo pour la plateforme.
Mais il faut se souvenir qu'initialement, Polestar, c'était tuner de Volvo.
C'était le AMG de Volvo.
Quand on dit qu'il n'y a pas de lien avec Volvo, excusez.
Mais c'est ça.
Tu regardes à l'heure actuelle, c'est la Polestar 2 puis le Volvo XC40, c'est la même chose. Le XC40 électrique, c'est la même chose. Le volant, c'est un volant Volvo. Il y a juste le sigle.
C'est une Volvo
à part entière. Donc, mais établir une... Tu sais, bon, Volvo, tout le monde sait c'est quoi. Polestar, là, c'est comme... Faut que tu commences à expliquer c'est quoi aux gens. Puis je me souviens d'une fois, j'en avais une à l'essai, puis mon voisin me dit, c'est quoi ça, Polestar? Puis, là, j'explique Volvo, ça. Ouais. Mais tu sais, déjà, là, pour le commun des mortels, c'est comme... Ça sort de où, c'est quoi?
Mais pourquoi ils n'appellent pas ça une Volvo?
Exactement. C'est ça. Fait qu'il y a ça. Et puis... écoute, c'est pas une mauvaise voiture. T'sais, elle a gagné des prix et tout. Et c'est une belle exécution du produit. Le problème, c'est que justement, c'est de convaincre un client qui connaît pas ça, qui sait pas c'est quoi, d'embarquer là-dedans littéralement. Puis,
on aurait juste plus de succès si on avait appelé ça Volvo.
Oui, selon moi, oui, mais ça, c'est un débat pour un autre jour.
Ouais. C'est très chinois de créer des marques, des sous-marques, des surmarques, des machins. Chine, ça marche, il n'y a pas de problème.
En Chine, il y a 200 marques de voitures chinoises.
Il en sort pratiquement une tous les jours en ce moment. J'exagère un petit peu, mais... Mais je pense que c'est pas la même mentalité, non, qu'effectivement ils se sont dit on va faire la même chose, ça marche chez nous, il y a pas de problème.
Mais en fait, c'est stratégie. J'ai aussi trouvé que c'était tiré dans le pied parce que tu lances une voiture qui s'appelle une Polestar 2, qui est une voiture, alors qu'on sait qu'actuellement les voitures sont en déclin. Et l'année d'après, tu débarques avec un XC40 Volvo qui lui est un VUS et qui vient carrément damer le pion à la Polestar 2 que tu as besoin de faire connaître, alors que l'XC40 est déjà établi. Ouais. C'est un peu curieux.
Et quand on regarde du côté des ventes, je pense que tu as sorti des chiffres de ventes aux États-Unis, parce qu'au Canada, ils ne communiquent pas.
Ils ne communiquent jamais les chiffres de vente au Canada. Évidemment, on a su que Polestar avait vendu 60 000 voitures à Hertz aux États-Unis, mais... Il y a seulement 10 350 voitures qui ont été livrées à des clients, donc à des
particuliers.
À des particuliers. Voilà, exact. Alors, c'est quoi la proportion de ventes que tu fais aux États-Unis? Et là, on le sait, ce qui est arrivé tout récemment, c'est qu'il y a un paquet de ces voitures Hertz-là qui se sont retrouvées dans des encans, qui n'ont pas trouvé preneur avec des mises maximisées à 30, 31, 32 000, alors que la voiture se vend 70. Ouch!
Oui, mais c'est parce qu'aux États-Unis... En dehors de Tesla pour la voiture électrique, point de salut. Le réseau de recharge n'est pas assez développé. Puis si toi, tu t'en vas en vacances avec ta famille, est-ce que tu veux louer une voiture électrique à Denver pour aller rouler dans les Rocheuses quand tu ne sais pas où est-ce que tu vas la rechercher? C'est clair que tu ne veux pas louer ça. Tu veux louer autre chose. Tu veux louer un VUS à essence, whatever. T'sais, tu veux faire la Californie, c'est la même chose. Tu ne veux pas te soucier de comment est-ce que je vais faire pour recharger cette voiture.
Non, dans la catégorie des mauvaises idées, ça, c'en était une pas pire.
Et donc, mais ça, ça vient plomber, tu sais, le marché, ça vient plomber la valeur de revente de tous les véhicules, la valeur résiduelle aussi de tous ces véhicules-là. Et c'est là que ça pose problème.
Et je dirais même que, bon, Polestar est arrivé avec la Polestar 2 en 2021. Ça fait maintenant plus de 3 ans. Puis quand tu regardes, par exemple, une marque comme Genesis, on est d'abord arrivé avec des voitures, puis on s'interrogeait sur la raison du pourquoi on est arrivé avec des berlines plutôt que des VUS connaissant le marché actuel. Quand tu connais le marché coréen, tu comprends pourquoi.
C'est ça.
Mais rapidement, on est revenu à la charge avec des VUS.
Ouais.
Sauf que là, tu regardes ta montre, ça fait 3 ans passés qu'on vend un modèle, la Polestar 2, et le Polestar 3, le Polestar 4, ça se fait toujours attendre. On sait qu'on va assister au dévoilement très prochainement, mais il est tard, là. Qu'est-ce qui se passe là chez Polestar, même chez Volvo, parce qu'on a retardé l'arrivée du EX90, bon. Mais,
et du EX30 aussi.
EX30 aussi, mais chez Polestar, il est plus qu'urgent qu'on débarque avec ça. Et 3 ans plus tard, il y a toujours un seul point de vente au Québec pour la division Polestar. Là. C'est, et ironiquement, c'est le gars qui vend des Volvo à Laval. T'sais. Bon, t'sais, qui plus est. Fait que là, ils sont en train de finir la construction de la concession Polestar au Québec sur la voie de service de la 440. Mais j'ai l'impression qu'on a attendu trop longtemps et que les stratèges de la marque... On a l'impression qu'ils sont partis en vacances pendant un an puis sont revenus puis on a fait « Oups, ça a changé ».
Mais ceci étant dit, quand on voyait le salon du véhicule électrique à Montréal il y a 2 ans, là, tu te souviens-toi, là, où il n'y avait pas d'offres sur le marché, Polestar, c'était une des seules voitures que tu pouvais acheter là, qui était disponible.
Et amusante à conduire.
Ça, ou une Model 3.
Puis, mais comme tu dis, c'était il y a 2 ans et en 2 ans, les choses ont dramatiquement changé.
Et voilà.
C'est ça. Alors là, on n'a pas de chiffre de vente sur le marché canadien. Bon, je pense qu'on est capable de deviner que c'est au Québec et en Colombie-Britannique qu'on en a vendu le plus. Mais il y a actuellement beaucoup de propriétaires de Polestar 2 qui sont pas très heureux de constater la très forte dépréciation de ces voitures-là, causée justement par cette mauvaise décision d'avoir garoché des dizaines de milliers d'unités dans des parcs de location.
Pour faire du volume.
Juste pour faire du volume. Mmh. Puis ici au Québec, tu as des entreprises comme Louélec et comme Hertz qui ont loué des voitures à des gens qui vont faire, par exemple, du Uber, des trucs comme ça, pour passer de ces voitures-là, il y en a trop sur le marché. Vous en voulez une demain matin, vous l'avez, là. Puis malheureusement, il n'y a pas de formule de bas prix ou de taux d'intérêt intéressant. C'est pas encore le cas parce que c'est une entreprise qui a un peu une philosophie à la Polestar, à la Tesla, pardon. Alors, j'ai hâte de voir comment on va s'ajuster. Mais quand on va avoir une gamme complète, on a besoin d'être un petit peu plus agressif et de ne pas répéter les erreurs qu'on a faites ces dernières années, là.
Ouais, ça, c'est une histoire à suivre.
Et ce qui est très drôle, c'est que pour terminer, la Polestar 1 dont tu faisais mention,
c'est
un véhicule qui découle du Concept Coupe de 2013 qui avait
de
été
Volvo.
De Volvo. et tu sais qu'il n'y en a eu seulement que 10 pour le marché canadien.
Oui, exact.
Et il y en a 2 qui ne sont toujours pas vendus.
Écoute, moi, j'ai été au lancement de la marque Polestar à Shanghai quand ils ont dévoilé la Polestar 1 pour la première fois. C'était un événement énorme.
Design magnifique, là.
Oui, puis tout et tout. Puis c'était le coup d'envoi et tout et tout. Puis c'était dans le temps aussi où ils nous parlaient du modèle d'affaires où il n'y aurait pas de concessionnaire, que c'était de vendre direct aux clients. Puis évidemment, aux États-Unis, ça ne marche pas à cause de la législation et tout ça. Mais tu voyais que c'était... Ils mettaient beaucoup d'argent sur ce projet-là. et pour voir jusqu'à quel point ça évolue et ils ont mais c'est difficile, c'est difficile
on pédale dans la semoule, c'est très 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 difficile. Alors bonne chance à tous à toutes les nouvelles marques qui vont débarquer chez nous. VinFast qui vient d'arriver, Fisker qui commence à distribuer des véhicules chez nous aussi. Très hâte de voir l'évolution de tout ça. On parlait de Polestar et de sa forte dépréciation. T'es allé, Gabriel, conduire une voiture qui, elle aussi, a une pas pire dépréciation, mais qui est un petit peu plus amusante à conduire. La McLaren 750S, que tu payes 400 000 et qui vaut 200 deux ans après.
De ce côté-là, je pense qu'ils ont corrigé le tir un petit peu.
Ils ont dit ça il y a 2 ans.
Ouais.
Okay,
ça, On s'en reparlera effectivement dans deux ans, tout à fait, t'as raison. Mais écoute, c'est une, t'as conduit la 720S, j'ai conduit la 720S, là avec la 750S, t'es une coche au-dessus.
Ben, c'est 30 chevaux de plus, 30 kilos de moins,
exactement,
essentiellement. Là.
À peu près. Et, mais surtout, c'est une voiture, tu la regardes, là, puis tu, c'est un peu le jeu des 7 erreurs, là, à savoir est-ce qu'elle est vraiment différente de la 720S.
Ouais.
30% des composants qui sont nouveaux sur cette voiture-là, ils ont beaucoup travaillé l'aérodynamique, ils ont surtout beaucoup travaillé le poids. T'sais, ils ont des nouvelles jantes, ils ont sauvé 18 kilos. Le combiné d'instruments, ils ont sauvé 1,8 kilos. Le vitrage de la voiture est plus mince, ils ont sauvé 1,6 kilos. T'sais, cette voiture-là, là, en ordre de marche, c'est 1389 kilos. C'est moins lourd qu'une Volkswagen GTI.
Oui, oui, oui.
Puis c'est à 740 chevaux.
Oui, c'est ça.
C'est hallucinant. Là. Le rapport poids-puissance dans ce créneau-là est imbattable. Là. C'est plus puissant et moins lourd, ce rapport-là, et meilleur que sur une Ferrari, par exemple.
Ouais.
Et puis, c'est vraiment une... bon, évidemment, V8 biturbo de 4 litres, ça change pas. Structure monocoque, ça change pas non plus. Mais tout, c'est du fine-tuning là, qu'ils ont fait, là, du tweaking, là, comme on dit en anglais. Et ça donne une voiture qui est surtout... Un nouvel échappement, surtout, qui est beaucoup plus sonore. C'est avant le 720S.
Ah, mais le son de ces voitures-là, c'est quand même...
Maintenant, là,
l'expérience de conduite est quelque chose. Ah, là, ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Mais le gros problème chez McLaren, ça demeure la fiabilité et la dépréciation.
Ouais.
Bon, il y a beaucoup de propriétaires de McLaren à qui j'ai pu parler qui m'ont dit « Écoute, c'est un beau jouet, mais... » une fois sur deux, quand je vais en profiter, non, ça arrive pas. Tu sais, ça marche pas.
Faire l'entretien de ces machins-là. Là, c'est...
Ben oui, mais ouais, ça, ben c'est comme n'importe quelle voiture exotique.
Ouais, ouais. Non, quand on est rendu dans ce... Quand on est rendu dans ce lot-là, mais tu sais, prix de base pour le coupé, 363 700 $. Le cabriolet, parce qu'il y a une version cabriolet, ouais, évidemment, c'est 392 700 $. Là-dessus, il y a aussi une liste d'options longues comme le bras, des sièges en carbone, des freins en carbone, des pneus Trofeo Air qui sont presque des slicks.
Alors, juste pour vous donner une idée, la taxe de luxe représente une Outback loadée au bouchon. C'est à peu près ça. Là.
Mais ce que je te dirais, et c'est ça peut-être la particularité des McLaren par rapport à des Lamborghini puis des Ferrari, parce que j'en ai conduit aussi de ces voitures-là, c'est que c'est probablement la voiture exotique qui est la plus confortable au quotidien, ouais, pour nous, pour nos routes.
À qui ne donne pas l'impression d'être capricieuse.
Exact. Mais surtout, c'est leur fameux système de suspension là, de Proactive Chassis Control, ouais, de troisième génération maintenant, avec des algorithmes plus performants. Mais les amortisseurs sont liés entre eux. Donc, tu n'as pas des barres anti-roulis conventionnelles sur ce véhicule-là. Ça te permet un meilleur débattement de suspension. Puis en mode confort, là, c'est surprenant.
Ouais.
Okay, évidemment, c'est pas une Rolls-Royce, c'est pas... ça reste une voiture exotique, mais c'est envisageable de conduire ça sur nos routes au Québec, plus que... Tu te fais moins brasser, mettons. Tu sais, quand t'es en mode confort, là,
ouais,
tu te fais moins brasser là-dedans que dans une Lamborghini ou une Ferrari.
Et pour avoir ces voitures-là sur les routes du Québec... et avoir parfois frappé des nids de poule, comme ça arrive, le coup que ça donne dans le châssis, c'est là que tu réalises à quel point c'est solide.
Ah,
ça craque pas, c'est
structure
incroyable.
Structure monocoque en fibre de carbone, il n'y a rien de mieux que ça. Là,
ouais,
c'est rigide. C'est
pas toi qui manges le coup. C'est qu'on a réussi à développer une structure qui donne l'impression d'amortir le choc à ta place, mais en étant d'une étanchéité, d'une solidité incroyable. Ça, c'est génial.
Il y a d'autres éléments aussi. La visibilité sur ces voitures-là, vers l'avant ou sur les côtés, c'est génial. Ouais. C'est vraiment bien fait. Mais c'est surtout ça. C'est la dualité de la voiture. Tu peux conduire ça. C'est une sportive de performance qui peut être vraiment furieuse sur la piste, mais en même temps, qui se conduit comme une Honda Civic dans la circulation. Simple que ça. C'est pas quelque chose de compliqué. Tu mets ça en mode automatique et tout. Mais c'est suspension en mode confort, la motorisation en mode confort, puis tu t'en vas là comme ça. Là, puis c'est
juste que pour l'entretien des freins, j'irai pas chez Honda. Perso, là, je te dis ça comme ça. Là, mais sinon, combien t'as dit que ça coûtait, cette voiture-là?
Mon Dieu, 363 700 $.
De combien de mirages pour ce prix-là?
Exactement, 392 700. Et une chose aussi qui est importante, c'est que la voiture, la production commence et vient de commencer. Ouais. Les premières livraisons se font maintenant. Mais le carnet de commandes affiche complet jusqu'au printemps 2025. OK? Et là, il en reste là, pour le marché de l'Amérique du Nord à peu près 900 à vendre d'ici à la fin du cycle de vie du modèle qui va être dans à peu près 2 ans et demi. Fait qu'il y en a juste 900.
Permets-moi d'être voilà. un petit peu sceptique sur ça parce que ils disent ça, puis ils avaient dit la même chose concernant la Artura.
Mais ouais, mais l'Artura, c'est autre chose. Là, tu oui. parles d'une hybride et tout. Oui. Et tout. Tandis que celle-là,
tu sais. Oui, oui. Mais tu te présentes chez un concessionnaire McLaren demain matin et t'en veux une, tu vas en avoir une.
Ah oui, non, c'est
pas d'accord. comme. C'est pas
mais
comme
ça, une... je te dis, il en reste 900. Il y en oui, a, oui. Allez la commander si vous voulez. Il y a des belles couleurs. Tokyo Cyan, j'ai trouvé ça très beau.
C'est plus facile d'obtenir ça que d'obtenir la Porsche 911 Dakar qu'on a conduit exact. Toi et moi cette semaine.
Exact.
Ça, c'est le carnet à fiche complet. Puis tu vois, il y a de la surenchère pratiquement au double du prix de sa valeur. Ça ne sera pas le cas avec une McLaren, malheureusement. On n'est pas rendu là. Mais des machines de sensations extraordinaires. Ouais. Merci les gars pour votre présence cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et Louis-Philippe devrait nous parler du révolutionnaire Volkswagen ID.4 2024 complètement repensé.
Bonne semaine à tous.
Salut.
Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.